en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est du droit, de ce point de droit très spécifique qu'est la jurisprudence que nous allons parler maintenant avec deux invités que j'ai grand plaisir à accueillir sur Canal Académie. Monsieur Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas Paris 2, et Monsieur François Théré, auteur de nombreux ouvrages consacrés au droit civil, également professeur émérite de l'université Panthéon-Assas Paris 2. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Monsieur Théré, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Faut-il rappeler que vous êtes tous deux membres de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques et que vous siégez tous deux dans la section législation, droit public et jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est justement le thème d'un important colloque qui se tient à l'Institut de France les 25 et 26 janvier 2006. Et c'est ce colloque intitulé « La jurisprudence, la création du droit par le juge » que vous allez nous présenter. Alors, Monsieur Foyer, ce colloque qui est placé sous l'égide de l'Académie a été initié par l'Association française de philosophie du droit et par le Centre de recherche en théorie générale du droit que vous présidez, je crois. Monsieur Foyer, vous en prononcez la locution d'ouverture. Je suppose que vous allez préciser pourquoi la jurisprudence, pourquoi ce thème a-t-il été choisi ? Nécessite-t-il en ce moment une réflexion particulière, une attention particulière ?
Je crois qu'il présente un intérêt permanent et qu'il présente certains aspects tout à fait modernes. Tout d'abord, des aspects permanents. La jurisprudence est un terme qui est entendu dans des sens assez divers depuis que les Romains ont commencé à s'en servir. Mais enfin, le plus souvent, à l'heure actuelle en France, ce terme désigne l'ensemble des solutions juridiques qu'on peut induire des solutions données par les tribunaux aux procès qui sont portés devant eux. Et alors, la question sur laquelle nous avons entrepris de réfléchir pendant ce colloque, c'était de se voir quel est au juste le rôle joué par la jurisprudence dans ce que le doyen Carbonnier a proposé d'appeler la production du droit. Et à cet égard, il y a des idées reçues selon lesquelles le système français et le système britannique seraient profondément différents l'un de l'autre. Que dans le système britannique, ce sont les décisions du juge qui constituent l'essentiel, que le droit est créé par le juge, on dit ça en anglais, mais vous m'excuserez de ne pas traduire parce que je prononce difficilement cette langue, et que la législation aurait un rôle tout à fait modeste dans ce système. Au contraire, depuis la Révolution française, en droit français, c'est le principe inverse qui prévaut. Le droit résulte de la loi, c'est un système de droit écrit. Mais la jurisprudence, la Révolution aurait voulu l'éliminer complètement, en matière pénale en particulier, puisque Robespierre disait qu'il fallait des lois précises et point de jurisprudence. En fait, c'était méconnaître la réalité, parce que la loi ne peut pas tout dire, et elle présente des insuffisances, des silences, voire même des contradictions, et que le juge est obligé, lui, de résoudre les questions qu'on lui pose lorsqu'il saisit d'un procès, et l'article 4 du Code civil déclare qu'il commet un délit de justice en se refusant de le faire. Mais malgré tout, la jurisprudence, cette jurisprudence donc qui est indispensable dans le système français, doit jouer un rôle plus modeste, et en tout cas, Portalis, dans le discours préliminaire du Code civil, a précisé que cette jurisprudence se formait sous la surveillance du législateur. Elle ne doit pas le contredire, elle ne doit pas se substituer à lui. Alors, je me demandais si en réalité tout ça était encore parfaitement exact à l'époque contemporaine tout au moins. Si l'on regarde le droit anglais, on constate que la loi écrite, votée par le Parlement et sanctionnée par la reine, avait pris une place extrêmement considérable dans le Royaume-Uni et qu'au fond, oui, les Anglais légifèrent d'une façon aussi foisonnante que les Français. Et qu'à l'inverse, Les Français sont à l'heure actuelle malades d'une maladie de droit écrit, parce qu'on en fait beaucoup trop.
Beaucoup trop,
néanmoins, la jurisprudence a toujours eu un certain rôle, une certaine place, et qu'il semble que, malgré le foisonnement législatif, elle a un rôle encore très considérable, et peut-être encore plus considérable qu'elle ne l'a jamais été. Et puis qu'on assiste aujourd'hui à un phénomène qui n'existait pas il y a 50 ans, c'est-à-dire le développement de ce que les juristes appellent d'un terme un peu technique, le contentieux objectif, mais enfin, la création de juridictions, soit interne, soit internationale, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice des communautés européennes, qui se crée une jurisprudence qui, finalement, est supérieure à la loi interne et que cette dernière doit respecter. Voilà
ensemble
de questions
que
j'ai l'intention, comme vous dites, de poser, parce que je n'aime pas le verbe positionner.
Je m'excuse.
Posé mercredi matin à l'ouverture du colloque et sur lequel s'expliqueront les très nombreux communicants qui ont certainement des choses extrêmement importantes et nécessaires à nous dire avant que M. Théré, qui est ici, prononce la synthèse de tout cela dans son rapport de clôture.
Alors, je voudrais préciser, Monsieur Foyer, que la première journée de ce colloque, le matin, est placée sous la présidence de Monsieur le Président Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, et sous la présidence, l'après-midi, de Monsieur Jean-Denis Bredin de l'Académie française, professeur émérite de l'Université Panthéon-Sorbonne-Paris 1 et avocat à la Cour. La deuxième journée, elle, est placée sous la présidence de Monsieur Prosper Veil, professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas-Paris 2, comme vous, et qui est également membre de l'Institut et votre confrère à l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Théré, ce colloque consacré à la jurisprudence réunit donc une vingtaine de personnalités du droit, des sommités en ce domaine, et je voudrais vous poser une question dont vous pardonnerez, j'espère, la naïveté. Dans le mot jurisprudence, il y a prudence. La justice en France demeure-t-elle assez prudente ou risque-t-elle de devenir imprudente par la multiplicité des cas de jurisprudence ?
Mais c'est un mot d'esprit.
C'est une question naïve.
C'est la notion de jurisimprudence. Et on pourrait d'ailleurs, par rapport à la conception de la prudence chez Aristote, qui distinguait ce qui est rationnel et ce qui est raisonnable, penser qu'aujourd'hui on est passé un peu dans ce domaine du raisonnable au rationnel et parfois même à l'irrationnel. Alors pour répondre à votre question, il me paraît important de rejoindre tout à fait ce que disait il y a un instant Monsieur Foyer. Il s'agit de voir que pendant tout le XIXe siècle, au fond, on a vécu assez calmement sur les bases du Code civil et la jurisprudence situait ses décisions quand même dans le droit fil. Des textes du Code civil, il y avait peut-être toute une école exégétique dont l'existence a été parfois discutée, mais au fond, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était la loi qui dominait et c'est au fond à partir des années 1880, le développement du rôle des arrêtistes, que la jurisprudence a pris une influence grandissante, au fond, sous l'influence déjà de travaux doctrinaux de Génie et de Saleil. Et je situerais, moi, la grande période de la jurisprudence entre 1880 et 1980. Il y a eu un beau siècle de la jurisprudence. C'est la jurisprudence qui avait tout créé en matière de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, les accidents d'automobile notamment, mais pas seulement. Et alors, pendant cette période, on a eu le sentiment que les besoins nouveaux de la société étaient satisfaits par une évolution de la jurisprudence. Et puis, on se disait aussi qu'il y avait un système de vase communicant lorsque le législateur s'est lui-même mis à légiférer beaucoup plus que précédemment. Et l'on pouvait penser que, par l'effet même de ces vases communicants, ce qui se développait à travers une législation de plus en plus luxuriante allait entraîner un abaissement de l'importance de la jurisprudence. Alors, rien de tel, comme c'était indiqué il y a un instant, ne s'est produit. La poussée, l'inflation de la législation s'est accompagnée d'une inflation de la jurisprudence. Et au fond, une inflation peut-être du droit. Et cette inflation de la jurisprudence, à travers même l'aménagement du colloque qui va se tenir dans les jours qui viennent, s'est produite de manière différente suivant les types de jurisprudence. L'extension grandissante d'abord s'est produite de la part du juge civil. Et c'est seulement un peu plus tard que le juge administratif a rejoint le juge civil. Puis est venu le juge constitutionnel. Mais ce sont des vagues successives, des strates successives qui ont créé la crise du juge, la crise du juge judiciaire, puis la crise du juge administratif, puis la crise du juge constitutionnel, et on en voit encore depuis les quelques jours qui viennent de se passer, puis la crise du juge international. Et alors, de ce fait, on se trouve confronté à un nombre de questions importantes, ce qui explique la réunion très pluridisciplinaire qui se tiendra dans les jours qui viennent.
Je vous propose de marquer une courte pause et nous nous retrouvons après cette pause avec M. Jean Foyer et M. François Théré.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Avec mes invités, Jean Foyer et François Théré, nous évoquons ce colloque intitulé « La jurisprudence, la création du droit par le juge », colloque qui se tient à l'Institut de France les 25 et 26 janvier 2006, ce colloque qui est public. Je voudrais maintenant avec vous, si vous le souhaitez, que nous évoquions quelques-uns des thèmes abordés dans ce colloque. Reprenons quelques-unes de ces questions. Monsieur Foyer, vous-même, vous allez intervenir sur le thème « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ». En quelques mots, quel sera l'essentiel de votre propos ?
Oh bien, ce sera, je dois dire, madame, pour ne pas dire de bien de cette juridiction.
Ah.
Car elle démontre tout à fait, cette juridiction, la nécessité qu'il y ait auprès des juridictions et auprès de la juridiction suprême d'un certain ordre, un législateur qui, le cas échéant, puisse venir redresser ses interprétations. Or, la Cour européenne des droits de l'homme n'a auprès d'elle aucun législateur. Elle peut donc impudemment, dirais-je, décider ce qu'elle croit devoir décider. Et en fait, elle a, au gré des espèces qui lui sont soumises, remis en cause et refait toute une partie des règles du droit national. Car elle a pour rôle de sanctionner les atteintes portée aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui définit un certain nombre de droits et de libertés. Elle interprète d'ailleurs ces textes d'une façon très libre, si j'ose dire. Et à la différence d'une juridiction de cassation qui apprécie la régularité en droit d'une décision rendue par rapport à la règle qu'elle devait appliquer, la Cour européenne des droits de l'homme va beaucoup plus loin que ça. Elle vérifie si la loi nationale que le juge a appliquée était elle-même conforme à la Convention des droits de l'homme ou si au contraire elle y portait atteinte. Elle a décidé un certain nombre de choses qui sont, je dois le dire, tout à fait contestables et pour certaines d'entre elles, proprement inadmissible.
Donc l'intervention de M. Jean Foyer dans ce colloque promet d'être animée. Mais j'ai l'impression que vous aurez beaucoup de personnes qui vous soutiendront dans cette analyse.
Je pense que tout de même, la majorité des esprits serait dans ce domaine-là, et de mon avis. Dire que les actes de sadisme, à condition que la victime ne s'y oppose pas, était conforme aux droits de l'homme, et tout de même une décision qui est singulièrement choquante.
En effet, la presse a fait écho à cette décision. Monsieur Théré, plusieurs des interventions de ce colloque portent sur les thèmes suivants. La jurisprudence en droit du travail, la jurisprudence en droit de la sécurité sociale, en droit des affaires, en matière fiscale, en droit des successions. Tous ces thèmes sont certainement importants, mais si vous deviez en choisir un sur lequel vous auriez vous-même envie de vous exprimer, quel est celui qui vous paraît le plus important ou le plus aigu en ce moment ?
Je ne vous répondrai pas en termes de spécialité. Je crois que tous sont importants, que probablement le rôle de la jurisprudence en matière familiale manifeste une déviance étonnante, même dans le rapport annuel de la Cour de cassation. Il est expliqué ex pressis verbis que le devoir de fidélité ne doit plus, dans le mariage, être conservé. C'est quand même un rapport officiel d'une haute juridiction française qui porte atteinte, me semble-t-il, à un certain article 212 du Code civil qui affirme le contraire. faire? Est-ce que c'est de la création du droit? Et alors c'est même de manière plus générale que l'on pourrait répondre que cela dépend des matières. Il y a des matières où la créativité de la jurisprudence, entre guillemets, est plus forte. Mais ce qui pousse à douter de la question, c'est quand même une réponse générale aux questions particulières que vous posez. D'abord, il faut remarquer qu'à travers même la Cour européenne des droits de l'homme et des juridictions internationales, on voit pénétrer indirectement dans le concept et dans le contexte judiciaire français des mécanismes de common law. Et ceci n'est pas forcément heureux. L'amicus curiae, par exemple, inventé en Angleterre, est une institution sur laquelle on peut émettre beaucoup de réserves. La règle du précédent, qui essaye de se faufiler aussi, manifeste en quelque sorte une difficulté. Mais je crois que, à travers cela, la réponse à votre question, qui considère que sociologiquement, la jurisprudence et créatrice, mais que juridiquement il y a un hiatus, me conduit à poser trois questions et j'aimerais avoir réponse à ces questions au cours de ces communications diverses de diverses matières. Premièrement, quel est le domaine de la jurisprudence? Par rapport à l'application du droit, quelle est la place que représente l'application contentieuse du droit? 5%, 7% de l'application générale spontanée du droit, ce qui conduit quand même à s'interroger sur la fonction créatrice du droit à travers ces tribunaux, si on les considère comme des hôpitaux, et en considérant que le contentieux judiciaire est en quelque sorte une pathologie du droit, ce qui ne plaira pas aux magistrats, bien entendu, mais ce qui peut être défendu. Est-ce que la justice doit nécessairement être toute une institution d'accueil, ou au contraire aussi une institution de dissuasion, sans vouloir faire une sécurité judiciaire comme il y a une sécurité sociale? Et puis, l'intelligibilité, deuxième critique, j'aimerais savoir si à travers toutes ces communications, l'intelligibilité de la jurisprudence, qui paraît être un objectif de valeur constitutionnelle quand il s'agit du droit, est satisfaite. Parce que les appellations, les sigles qui permettent de désigner les diverses décisions de la jurisprudence, publiées, non publiées, de formation restreinte, de formation spéciale, sont de nature à permettre de comprendre la jurisprudence. Et puis il y a une troisième question qui s'est toujours posée, celle de l'approximation des décisions de justice dans des contentieux divers, mais sans que réussisse l'offensive qu'avait développée le doyen Carbonnier, et qui n'a pas toujours d'ailleurs respecté lui-même, une offensive vers le recul, la régression du droit vers le non-droit.
Je le disais, donc une vingtaine de sommités du droit participent à ce colloque consacré à la jurisprudence, de nombreux professeurs d'université à Paris et en province. Et permettez-moi de citer leurs noms, parce que je pense que c'est important pour ce colloque que l'on sache qui va intervenir. Donc, Monsieur Pierre Avril, Monsieur Philippe Mallory, Monsieur Xavier Lagarde, Madame Pascale Demier, Messieurs Bertrand Mathieu, Claude Brenet, Bernard Tessier, Madame Jeanne Tillet-Pretenard, Sophie Schiller, Christophe Delamardière, Madame Catherine Puy-Jolier, Monsieur Jacques Foyer, Madame Elisabeth Zoller, Madame Geneviève Burdeau-Bastide et Monsieur Christophe Willmann. Cela fait beaucoup d'intervenants. Monsieur Foyer, avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire à propos de l'intervention de Monsieur Pierre Avril? La jurisprudence institutionnelle du Conseil constitutionnel est-elle créatrice de droit?
Oui, bah écoutez, je crois que mon collègue, Monsieur Avril, aura beaucoup de choses à dire sur ce sujet, qu'il connaît particulièrement bien. Je vais simplement noter un fait, c'est qu'en réalité, le Conseil constitutionnel en est arrivé à légiférer lui-même et à refaire une loi mal faite. Alors, quand il est saisi par des recours de cour de 60 députés ou 60 sénateurs qui lui demandent de décider qu'une loi votée par le Parlement, sur tel ou tel point ou en totalité, ce ne serait pas conforme à la Constitution. Or, le Conseil constitutionnel, dans un certain nombre de cas, essaie, si j'allais dire, de limiter les dégâts. Alors, il déclare que la loi est conforme à la Constitution, mais à la condition de lui donner un certain sens, de l'interpréter en une certaine manière. Il appelle ça, dans son langage spécifique, une réserve d'interprétation. Mais dans le cas de la réserve d'interprétation, on peut dire que le Conseil constitutionnel a refait la loi.
Partagez-vous ce point de vue, Monsieur Théré?
Hélas, une nostalgie, car j'irai même plus loin. Je me demande si le Conseil constitutionnel, crée de la jurisprudence en ce sens que ce n'est pas une juridiction à mes yeux. C'est une jurisprudence sans juridiction, car c'est un corps politique, le Conseil constitutionnel, mais malheureusement, peu d'esprits, peu d'auteurs, peu de juristes persistent à le dire. Mais le Conseil constitutionnel, on peut dire qu'il avait été créé dans une mission spéciale, c'était de protéger le pouvoir réglementaire par rapport au pouvoir législatif. Eh bien, il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire, et il lui a fait ce qu'on ne lui a pas demandé. Récemment, il a évolué, 2004, 2005, 2003, en disant « Oui, mais nous ne considérons pas comme législatives des dispositions qui appartiennent certainement au domaine réglementaire. » Alors cela donne lieu à des discussions sur ce qui appartient certainement, ce qui n'appartient pas certainement au domaine réglementaire. Puis, au contraire, alors il a fait ce qu'on ne lui demandait pas. Il a estimé qu'il était de son pouvoir en 1971 de contrôler le respect des dispositions du bloc de constitutionnalité, de la déclaration de 1789, de la déclaration du préambule de 1946 et de celui de 58 qui, par une voie d'héritage, rappelait les autres. Et il a, en d'autres matières, dépassé son rôle. La dernière manifestation, outre ce que disait M. Foyer, c'est d'avoir considéré que ne faisait pas partie de la législation des dispositions dépourvues de caractère normatif. Alors là encore, pour les constitutionnalistes, c'est pain béni, parce qu'il va falloir distinguer ce qui est certainement à l'évidence normatif, ce qui n'est pas à l'évidence normatif. Et quand, par exemple, l'article 371 du Code civil dispose que l'enfant doit à tout âge honneur et respect à ses parents, est-ce que c'est normatif? Je veux bien l'admettre. Mais ceci nous conduit à nous interroger sur la fonction de la loi. Parce que certains auteurs, et le doyen Carbonnier, avaient soutenu que la loi avait aussi une fonction pédagogique. Alors si la loi a aussi une fonction pédagogique, et peut-être parce que nul n'est censé l'ignorer, il est évident que les distinctions du Conseil constitutionnel ne sont plus nécessairement aussi évidentes qu'il y paraît. D'ailleurs, il s'est manifesté avec une grande timidité par rapport à l'application des directives communautaires.
Alors, je sens que l'intervention de M. Pierre Avril sur le Conseil constitutionnel provoquera sans doute des débats. M. Foyer, dans ce colloque, y a-t-il des débats qui sont prévus justement
dans,
à la
suite?
Dans
la mesure où on peut y refaire une certaine place, mais il faut dire que nous avons,
beaucoup d'intervenants.
Nous avons admis tellement d'invités, tellement de communicants, que le débat ne pourra pas se développer très longuement sur chaque point, mais ça pourra donner lieu par la suite à des développements et on pourra reprendre tel ou tel point pour l'examiner d'une façon plus approfondie.
Vous considérez que c'est comme l'amorce d'une réflexion, ça donnera lieu à des publications
sur certains points, certainement.
Ah bon, très bien. Alors, Monsieur Théré, vous allez prononcer la conclusion de ce colloque. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez dire?
L'idéal, ce serait de le savoir déjà.
Oui, mais en fait, vous attendez d'avoir attendu.
On attend et on n'attend pas. J'ai reçu, Madame Puigelier m'a envoyé quelques communications. Je ne sais pas exactement un rapport de synthèse, je crois. Il y a des propos conclusifs, mais il est bien évident qu'il faut un petit peu parler tout le monde, sinon on a quelques ennuis. Il peut exister des formulaires d'un rapport de synthèse.
Bon,
de telle sorte
voilà
qu'on peut avoir quelques idées à l'avance. J'en ai évoqué quelques-unes. Moi, si on ne me répond pas à mes questions, j'aurai toujours l'occasion de peut-être de nourrir le propos. Mais comme ce sera en fin de matinée, après un nombre considérable de communications, bien que certaines ne soient qu'écrites et ne soient pas prononcées, je pense que l'appétit des congressistes ou des colloquants sera tel qu'ils ne seront pas impatients de m'entendre à longue haleine.
Alors, Monsieur Foyer, Monsieur le ministre, je vous remercie. Monsieur Théré, je vous remercie aussi. Merci d'avoir présenté pour les auditeurs de Canal Académie les points essentiels de ce colloque consacré à la jurisprudence et qui se tient, je le rappelle, à l'Institut de France les 25 et 26 janvier 2006. Ce colloque est ouvert au public. Et si vous ne pouvez vous rendre à Paris, à l'Institut de France, vous pouvez toujours retrouver Monsieur Foyer et Monsieur Théré en écoutant ou en téléchargeant librement cette émission dans la médiathèque de Canal Académie à la rubrique « En colloque ».